C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vante speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois les redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 28 juin, il est 8h30. Aujourd'hui, la matinale est exclusivement réservée à la bande dessinée, puisque le festival Bulle de Burle, c'est ce week-end à Saint-Enimi, et nous recevons Val, qui est auteur de BD, et Philippe, qui est président de Saint-Enimi BD. À la prog musicale aujourd'hui, c'est Val qui s'y est collé, et on y va pour l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Ben voilà, il a récidivé. Hein. Le président Macron, après sa sortie il y a quelques années, vous traversez la rue et je vous trouve du boulot, ben il a remis le couvert à Marseille. Je le cite, « Vous n'allez pas me faire croire qu'il ne va pas trouver s'il cherche vraiment un boulot à Marseille. Je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous et je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. Chiche. Mais je doute qu'il y soit allé. Qu'il y ait ou pas du boulot n'est pas forcément la question. » Quid des conditions de travail, des salaires, du rythme de vie. Bosser en restauration pour une paye de misère par rapport aux heures travaillées, voilà qui démotive. Si certains restaurateurs font de vrais efforts, ça reste une minorité. Donc oui, le président Macron a sans doute raison de dire qu'il y a du travail sur le Vieux-Port ou dans d'autres régions touristiques. Mais sincèrement, à quel prix ?
Le vent s'engouffre dans ma valise et sur ma route il y a des trous. J'ai vu tant de rues, j'ai vu tant d'églises, mais les plus belles étaient chez nous. Mon village est loin, à l'autre bout du monde, et ma maison n'est plus qu'une chanson. Comme les neiges, mes rêves fondent, buvons mes frères, les vagabonds des Caraïbes. Aux Philippines, j'ai traîné ma carcasse un peu partout, mais les chemins qui mènent à nos collines avaient des pierres douces à mes pieds nus. Mes camarades à l'autre bout du monde, c'est bien justice, m'ont oublié. Je leur adresse une colombe. Buvons mes frères à leur santé. Le vent s'engouffre dans ma valise. Pourtant la chance est souvent venue. Elle est bien brave, quoi qu'on en dise. Mais il ne faut pas trop dormir dessus. La pauvreté manque parfois de charme, mais l'herbe est douce aux malheureux. Pas de discours et plus de larmes. Venez mes frères me dire adieu.
Eh ben, on vient d'écouter, tiens, Joe Dassin, mon petit village, puisque la prog musicale aujourd'hui a été assurée par un ami dont je vais vous révéler l'identité dans quelques instants. Et oui, auditeur, auditrice, l'été est bel et bien là. J'en veux pour preuve que je suis avec Philippe. Bonjour.
Et bonjour à tous.
Le festival Bulle de Burle, Enimi BD, c'est ce week-end où ça, bah, Saint-Enimi, merci d'être avec nous. Et Val, bonjour.
Bonjour.
C'est donc toi qui as fait la programmation musicale aujourd'hui. J'espère que les auditeurs préfèrent tes BD à la musique que tu proposes.
Oh, ça c'est vache, ah, elle est bonne la musique en plus, c'est éclectique et tout et tout.
Absolument extraordinaire, non, c'était pour rire évidemment. Tu es auteur de BD, tu es monté en grade cette année, dis donc, puisque ça y est, tu lances avec trois autres auteurs, autrices. Tu te lances dans ce monde complètement fou qu'est l'édition, tu es devenu éditeur.
Et nous sommes devenus effectivement éditeurs. Donc là, on multiplie les casquettes, auteur, illustrateur, éditeur, et ouais.
Les éditions Pickles, c'est ce que vous avez créé justement. Commençons par ça. Comment elle a commencé cette aventure, et est-ce que c'est le bon mot de dire monde de fou ?
Ah oui, forcément, c'est un monde de fou. En plus, c'est un monde qu'on connaît pas encore, j'ai envie de dire, en profondeur. Donc, on s'est lancé le challenge et le défi, mais toujours avec le plaisir de s'amuser, à prendre autant de plaisir qu'à faire des BD, que derrière, pouvoir les distribuer, les diffuser, les vendre. Et oui, c'est une belle aventure, vraiment. Bon, en plus, on est quatre personnes qui s'entendent bien et que c'est cool, quoi.
Citons-les, Olivier Ganon, qui sera d'ailleurs présent à Enimi BD. À Bulle de Burle, Myriam Thomas,
ouais.
Thomas et Christophe
Sinesal qui signe The Scene, qui est en Belgique d'ailleurs. Et puis voilà, donc ce sont les quatre personnes qui composent l'association Pickles.
La première BD que j'ai là, hein, qui s'appelle Bande de Blaireaux, que vous avez sorti, qui est extrêmement drôle. Après, est-ce que les gens vont finir par croire qu'on est potes? Je pense que oui, auditeur, auditrice, on est potes, mais on n'est pas potes parce que j'aime ce qu'il fait aussi, mais c'est absolument extraordinaire. Juste pour qu'on se rende compte un peu, et Philippe, tu peux réagir quand tu veux, comment ça marche? Peut-être que des personnes qui nous écoutent seraient intéressées de créer une maison d'édition. Comment on fait?
Alors, comment on fait quoi?
Créer une maison d'édition.
Ah bah, tout dépend. Bon, nous, on a choisi un statut associatif, évidemment, pour créer cette maison d'édition. Maintenant, si d'autres personnes veulent devenir riches, ce qui n'est pas trop notre cas. Et puis, en bande dessinée, en général, ce serait plutôt prétentieux. Le statut de l'association n'est peut-être pas idéal. Nous, on a choisi ce statut-là. Après, donc, il a fallu réaliser un album, un premier, en tout cas, puisque ça en appellera d'autres. Ça, c'est une certitude. Trouver un imprimeur de qualité. On a pu en choisir un qui était en France, qui pratiquait des prix, je veux pas dire défiant toute concurrence, mais en tout cas qui était très alléchant et qui fait une bonne qualité en termes d'impression. Ensuite, il faut trouver un distributeur, puisque nous sommes distribués partout, France, Suisse, Belgique, jusqu'au Canada.
La classe.
Donc, c'est vraiment la distribution et uniquement la distribution. C'est là où il faut faire la distinction avec la diffusion. Et là, la diffusion, nous, pour l'instant, on n'a pas encore de partenaire, parce que là, c'est vraiment quelque chose de très lourd et très onéreux. Donc, nous, on a choisi de faire la diffusion nous-mêmes et d'essayer de passer par les réseaux sociaux, Internet et autres. Mais par contre, effectivement, on peut nous trouver partout. Si quelqu'un nous entend aujourd'hui à Bruxelles, il peut aller chez son libraire et commander la BD, il n'y a pas de problème, quoi.
Sur toutes les plateformes bien connues. Philippe, vous recevez des éditeurs tous les ans. Alors si j'ai bien vu, lu, et tu m'arrêtes si je me trompe, les éditions de l'Ularzac ne seront pas présentes cette année.
Non, pas de création depuis 2 ans au niveau de la BD chez eux. On les a accueillis quand même dans la continuité de ce qu'on faisait avec eux depuis 4 ans l'an passé. Mais c'est vrai que cette absence de nouveauté, bon, elle mérite aussi un peu de laisser de la place à d'autres. Et donc, en l'occurrence, pour cette année, on a réinvité les éditions Les Enfants Rouges, qui est un éditeur niçois de grande qualité, avec des auteurs qui sont sur des sujets sociétaux. Je pense à Christophe Girard, hein, qui vient de sortir Sarajevo, qui a sorti MBS sur le gouvernant là, d'Arabie Saoudite, qui sort donc des choses qui parlent en termes de connaissance de la vie d'aujourd'hui et qui sont sur du roman graphique de qualité. Donc voilà, les Enfants Rouges seront à nos côtés à nouveau. Bien sûr, j'allais dire les éditions Jargy, hein, du Forez, qui petit à petit ont fait leur trou, puisqu'aujourd'hui ils ont un catalogue superbe, avec chaque année 4 ou 5 auteurs nouveaux qui les accompagnent chez nous. Donc voilà, une belle opportunité aussi pour découvrir. Et puis des auteurs, Val vient d'en parler, hein, qui sont soit en train de créer leur édition, soit en auto-édition. On a toujours laissé de la place de ce côté-là. Donc il y en a encore un petit quart à peu près sur 25 auteurs qui seront présents et qui donc pourront défendre un peu leur propre production.
Mmh. Alors revenons sur Pickles, hein, puisque vous venez de sortir votre première BD, Bande de Blaireaux, que tu as co-réalisé avec Ganon, qui sera, je le répète, là ce week-end. Vous dites avec beaucoup d'humour qu'une bande de cornichons a sorti une bande de blaireaux. Alors, ce que j'en ai vu a l'air évidemment très drôle. On a un exemplaire dédicacé ici pour la radio, je le répète, qui n'est pas pour moi. Alors, ce que j'en ai vu, c'est-à-dire encore très peu, phrase d'accroche, vous vous excusez d'utiliser cette déplorable métaphore pour rire avec la bêtise humaine. Est-ce que c'est là tout l'enjeu de la BD en général ?
Non, parce que la BD est quand même beaucoup plus vaste que le simple, j'ai envie de dire, créneau humoristique. Nous, c'est un créneau qui nous va bien, en tout cas qu'on apprécie, qui nous va bien, ça, j'aurais pas cette prétention-là, mais en tout cas, c'est le créneau qu'on apprécie. Et effectivement, rire avec la bêtise humaine... Alors parfois on pourrait rire de la bêtise humaine, de temps en temps elle nous fait de moins en moins rire quand même, mais rire avec, oui, et de toute façon rire. Voilà, notre créneau reste un créneau humoristique, et là la maison d'édition Pickles, l'objectif c'est des bandes dessinées d'humour et bandes dessinées jeunesse. Donc pas forcément que de l'humour, on veut aussi faire de la bande dessinée jeunesse. Myriam Thomas d'ailleurs est une autrice jeunesse... bien plus talentueuse que nous. Et donc voilà, l'objectif est de sortir 2 à 3 albums par an.
Est-ce que c'est impressionnant pour toi, Féroïs BD, organisateur comme ça d'un gros festival, des auteurs qui créent des maisons d'édition dans un monde où la bande dessinée est peut-être, enfin le monde de la BD en tout cas est peut-être un peu saturé. Est-ce que ça t'impressionne, toi, Philippe?
Bah, je impressionné, non, c'est pas le terme. Moi, je trouve que ils ont raison de se prendre un peu en main, d'aller jusqu'au bout de la démarche, parce que si les éditeurs installés faisaient leur travail, ils n'auraient pas besoin d'aller jusque-là. Et effectivement, les éditeurs installés, le 5 de base, on peut dire, hein, les Dargaud, Glénat et compagnie, qui font pas leur boulot, parce qu'en fait, ils attendent confortablement dans leur bureau que les gens aient d'abord édité, se soient éventuellement fait une petite renommée pour venir les chercher, éventuellement leur faire signer un one-shot. C'est pas raisonnable, c'est pas réaliste, et donc les auteurs ont raison de s'organiser. Alors s'organiser à plusieurs, c'est quand même plus facile, donc c'est une aventure, comme le disait Alain Stanval, qui mérite d'être tentée. Après, moi j'ai bien écouté ce qu'il nous disait, il a bien serré les trois enjeux, hein. L'enjeu de l'impression, il faut un imprimeur de qualité, un rapport prix raisonnable, il faut une logique de distribution, et ça c'est pas simple, parce que les éditeurs, les grands éditeurs que je citais en partie tout à l'heure, sont des gens qui ont phagocyté complètement les circuits de distribution aujourd'hui. On a péniblement trois gros distributeurs sur le territoire français qui font la pluie et le beau temps, et pour lesquels donc il est compliqué d'éviter leur circuit, et il est compliqué du coup d'avoir des diffusions directes auprès des libraires, auprès des points de diffusion, puisque Val faisait référence à la diffusion via le net, qui aujourd'hui est un des vecteurs les plus importants qu'utilisent les indépendants, et c'est bien. Le crowdfunding a beaucoup ouvert ces pistes-là, donc ça c'est une bonne chose. Mais par contre, la place des livres, la place des BD dans la librairie ou dans les lieux de proximité, c'est encore compliqué, parce que les distributeurs, une fois encore, ont mis en place un mécanisme de fou, que je peux décrire en deux termes, hein, c'est facile. On produit beaucoup, et on retire beaucoup. C'est tout simple. C'est une espèce de vague, de va-et-vient, qui se joue dans une temporalité trop courte, de l'ordre de 2-3 semaines, qui fait que les libraires reçoivent chaque 2-3 semaines un paquet de bouquins. Ils n'ont même pas le temps de les regarder, de les étudier, de les lire, de les mettre en valeur, qu'on leur demande déjà de les faire repartir. Et où repartent-ils ? 9 fois sur 10, au pilon. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de lectorat, puisqu'il n'y a pas eu le temps de mettre ce lectorat en contact.
On a peut-être vu la même chose au cinéma, et ça fait pas forcément la part belle au cinéma aujourd'hui, où l'industrie se plaint.
Bien sûr. Donc, à un moment, les choses se retournent aussi contre ceux qui, de façon manichéenne, ont essayé de s'en servir.
Alors justement, puisqu'il y a embouteillage avec des gros éditeurs comme ça, la part belle aux dessinateurs et auteurs, autrices, peut-être un peu plus petits, en fait, est-ce que dans les médias, ce serait pas cool d'avoir plus... Alors nous, on est une radio locale, donc c'est normal qu'on donne la part belle à des gens qui sont moins connus, voire pas connus. Hein. Val, on ne te connaît pas.
C'est ça.
Alors, je déconne, évidemment. Mais est-ce que c'est le rôle aussi des médias de baisser un peu sur des gros d'argot, etc., et de faire la part belle à des petits auteurs?
Oui et non, oui, forcément. Alors ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de médias qui commencent tout doucement à revenir un peu sur ça et à remettre au goût du jour pas mal des gens, j'ai envie de dire, qui sont moins connus médiatiquement et qui font autant de qualité que les autres. Maintenant, faut pas non plus exclure la qualité des personnes qui ont de la notoriété, parce que il y en a quand même beaucoup qui ont de la notoriété, c'est mérité, ils font un travail de qualité, il faut aussi les mettre en lumière. Donc oui, je pense que les deux sont nécessaires. Il faut essayer de trouver aussi les bons médias. Alors forcément, nous, à notre petit niveau, on va éviter ces 8 déjà, à tout niveau, tout simplement. Mais bon, voilà, on évitera peut-être d'aller chercher des grandes chaînes nationales dans un premier temps, bien que, voilà, on pourrait aussi, pourquoi pas, y réfléchir. Mais si on peut déjà, à niveau régional... accéder aux médias, oui, bien sûr.
Alors là-dessus, peut-être juste pour rebondir, nous, on est en convention maintenant depuis 3 ans avec France 3 Occitanie, avec qui ce partenariat est assez intéressant parce qu'il n'est pas seulement au moment du festival, il est plusieurs rencontres tout au long de l'année, il est dans leurs publications ordinaires, leurs newsletters, leurs exéos qui sont juste avant les magazines ou avant les infos, et donc ils nous sollicitent, c'est eux qui nous sollicitent pour apporter justement l'information de connaissance du terrain, l'information de connaissance des auteurs, voire des éditeurs indépendants. Donc on sent bien que même les gros médias, alors bon, France 3 bien sûr a un statut particulier hein, puisque c'est un statut de télé des territoires, hein, et ils le revendique bien en Occitanie. Donc ce va-et-vient fonctionne. Il est encore dans cette logique de va-et-vient. Il n'y a pas encore peut-être la place de ce qu'on pourrait rêver, qui serait une sorte de magazine BD ou de choses comme ça. Mais les portes ne sont pas fermées. On le sent bien quand on échange avec nous.
En tout cas, on reviendra à tout ce que vous faites tout au long de l'année, parce que Enimi BD, ce n'est pas que le festival Bulle de Burle. Mais on va dire un mot, Val, sur Jean-Michel Border Folie, le tome 3. Alors, commençons par le début, avant ma question qui fait un pavé. Il sort quand ?
J'ai pas de date, je suis dessus, donc alors le scénario est bouclé, tout le crayonné de l'album est bouclé, donc là je suis en train d'ancrer et de coloriser l'album, donc le plus vite possible évidemment, voilà.
Alors disons-en un mot sur ton Jean-Michel, le troisième tome que grâce à vos positions élevées dans cette société et au vu du président qui est à sa tête, on peut pas parler d'une société des lumières, n'est-ce pas, j'ai eu l'occasion de la lire en avant-première et sans flagrant je me suis bidonné, ce troisième tome est une vraie réussite, le contexte. Tout est parti de cette sombre histoire de l'abbé du Chéla, qui a œuvré terriblement durant la guerre des Cévennes avec une répression sans merci contre les camisères. Jusque-là, ça va ?
Jusque-là, ça va.
Toi, tu récupères cette histoire. Et l'abbé du Chéla, il revient. Il va hanter Paré de couettes en gueulant couette, 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 couette pour convertir les moutons de Jean-Michel au couettolicisme.
Au couettolicisme, exactement.
Voilà, avec évidemment une référence à la chanteuse Chéla. Alors, je suis très mauvais pour les synopsis, mais tu l'auras remarqué, je ne sais pas si tu peux faire mieux. Mais en tout cas, c'est juste blindé de jumeaux loufoques, tout aussi drôle les uns que les autres. Cette question est beaucoup trop longue. Bref, d'où t'es venue l'idée et surtout, comment tu l'as développée? Parce qu'en plus, disons-le, c'est une BD qui est très musicale.
Oh, bon, en tout cas, j'essaie de faire beaucoup de références à la musique parce que j'aime ça, mais... et puis, je pense qu'un scénario, c'est quelque chose qui s'exerce comme de la musique. Alors, je suis pas du tout musicien, par contre, mais je trouve que c'est quelque chose qui doit être musical à lire. Je sais pas si tu es clair en disant ça. Comment ça m'est venu? Ça a pris un petit peu de temps. J'avais l'idée, je voulais évoquer cette guerre des religions, qui je trouve est très très marquée, moi qui ne suis pas français, en France, mais en plus ici dans le secteur encore plus. Et je voulais que ça soit le point de départ, mais je ne voulais pas sombrer dans la moralisation, je ne voulais pas sombrer dans le cliché militantiste. Je voulais juste m'en amuser et bon, voilà, je suis heureux d'entendre que visiblement ça fonctionne. Donc je m'en amuse. Comment je fais? Je commence et puis je me laisse aller. De temps en temps, j'enlève, puis je retire, puis je remets, puis je mets d'autres choses, et puis voilà.
Est-ce qu'il t'arrive d'exploser de rire devant ta BD?
Oui, ça me donne un air très bête d'ailleurs. Mais oui.
Je crois que j'ai eu l'air aussi con en lisant la tienne, hein, je te rassure.
Après, le problème, c'est ce qui me fait rire moi ne fait pas toujours forcément rire les autres. Donc là, c'est le stress qui prend le dessus, puisque quand je suis très content de moi, je fais lire à quelqu'un d'autre et j'ai un gros stress en me disant « Est-ce que ça va fonctionner ou pas ?» Voilà.
Alors, Philippe, tu l'as abordé tout à l'heure, au-delà de ça, Val est un complice depuis longtemps des BD, et avant de rentrer dans le concret du festival de ce week-end, précisons que vous faites des choses toute l'année, et on peut pas tout citer tellement il y a de choses qui se passent, mais d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas eu le temps de le noter quand on s'est eu au téléphone, Val va bosser avec vous dans les semaines à venir.
Oui, il va participer à un des volets de notre action tout au long de l'année. On a ce qu'on appelle l'enseignement des arts et de la culture tout au long de l'année avec le milieu scolaire, avec les bibliothèques, avec les centres de loisirs. Ça fait en gros 5-6 auteurs en résidence, ça fait une trentaine de lieux qu'on visite et puis pas loin de 2000 gamins qui à un moment ou à un autre rencontrent la BD d'une façon ou d'une autre. Et puis on a une opération estivale à laquelle donc Val va participer cet été, qui est en partenariat avec le Centre National du Livre, le CNL, qui s'appelle Partir en livre. L'idée, c'est de sortir les BD des murs de leur bibliothèque, des murs de nos collections, les mettre à la disposition du grand public. Donc Saint-Denis s'y prête parfaitement. Le vieux village est un lieu magique. La place du presbytère avec sa petite treille un peu ombragée l'été est très appréciable. Et donc là, on crée un espace de lecture, un espace d'animation, un espace de rencontre entre un public qui peut déambuler, qui peut découvrir au hasard de ces ruelles ou cette placette des livres, des BD, se poser, prendre le temps de lire, prendre le temps de découvrir en famille, mais aussi participer à des ateliers. Et c'est ainsi que Val donc animera, je crois que c'est tous les mercredis du mois de juillet, tous les jeudis, pardon, oui, puisque c'est en amont du marché nocturne.
C'est que monsieur a un emploi du temps bien
oui, <c'est ça. rire>
chargé avec monsieur était déjà.
Voilà, donc tous les jeudis, Val sera là l'après-midi, avec deux propositions, une proposition plus pour du collectif, puisqu'on travaille avec les enfants du centre loisirs les Petits Cailloux, on travaille aussi avec les groupes de jeunes qui sont accueillis au centre pleine nature de Saint-Élémy en périphérie, et donc une première intervention sur ce collectif, et puis une deuxième intervention plus ouverte, comme je le disais, pour le public qui est là, de passage, qui est curieux peut-être plus de connaître la bête que son border collie, mais ça c'est lui qui verra. Le grand public, on s'en rend compte, est curieux justement de ces rencontres humaines en fait, et c'est aussi pour ça qu'on crée ce lieu in situ dans la cité médiévale, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, pendant leurs vacances, ils avaient envie de prendre ce temps là de prendre ce temps du partage, du questionnement, de l'interrogation, de la découverte riche entre individus d'un sujet qui quelque part n'est pas toujours spécialisé pour eux, mais qui les interpelle de toute façon, qui s'appelle la BD, quoi.
D'où l'idée que vous soyez présent sur le territoire de Saint-Denis, pas que en sud de Lozère, et même Lozère.
Maintenant on est un peu sur l'ensemble du département. On est même parfois, ça nous arrive là, sur ce festival, on va formaliser un petit partenariat avec une maison d'enfants à caractère sanitaire et social qui est sur Nîmes. C'est une relation sur laquelle la Fondation Orange nous a demandé d'intervenir. Et donc ces jeunes-là viennent sur le festival parce qu'il y a déjà un petit début de créativité chez eux, d'atelier, et on va les aider à rencontrer les pour se donner envie d'aller plus loin, quoi. Voilà, donc, par exemple.
On va continuer de parler de BD, d'ennemis BD, du festival Bulle de Burle. On fait une pause musicale. Tiens, c'est Val qui a fait la programmation musicale aujourd'hui. Ça s'appelle Damien Marley avec Scurley, c'est ça ?
Skrillex.
Tu vois, un jour, on se comprendra. Hein. Un peu de choses près, on parle la même langue en plus.
C'est pas tout à fait, il est belge, lui.
Le problème, c'est que j'ai des bonnes origines aussi, normalement. Le morceau s'appelle Make It Done. À tout de suite.
Alongside Skrillex, them for no. Ooh wee. Awo.
We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday.
On est retour en plateau, Damien Marley, Skrillex, c'est bon ?
Skrillex.
Skrillex, tu vois, jamais. Et on continue à parler avec Philippe et Val du festival Bulle de Burle qui a lieu à Saint-Sénimi ce week-end. On a parlé des choses que vous mettez en place depuis pas mal de temps. Val, on a parlé de toi et de ton parcours, entre guillemets, celui et ton futur là, qui arrive, puisque Monsieur est éditeur maintenant. Le festival, c'est un fait. Il est maintenant bien implanté dans la région. Et encore l'année dernière, Philippe, c'était un franc succès.
Oui, on peut dire que le Covid nous a été salvateur, contrairement à ce que nombre de gens ont subi. Nous, on a eu la chance de maintenir notre édition 2020, on a été les seuls en France à ce moment-là, et ça nous a donné du coup une image internationale qu'on n'avait que ponctuellement et qui là aujourd'hui est installée. Donc on a des gens qui viennent effectivement commencer leurs vacances en passant par le festival. Ils sont belges, ils sont luxembourgeois, ils sont suisses, souvent ils sont francophones tout simplement, et donc amateurs de BD. Et Enimi BD est devenu un de leurs points d'attache, un de leurs points de passage. Donc voilà, ça fait effectivement une belle fréquentation. Surtout, ça a complété notre triptyque. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup travaillé avec les familles, les parents des enfants avec qui on œuvre tout au long de l'année. Donc ça, c'est un public local. On a assez rapidement élargi vers les territoires de proximité, les départements voisins, parce que des amateurs de BD, il y en a aussi beaucoup en Occitanie, et donc c'était une façon de leur faire un clin d'œil annuel. Mmh. Et à travers donc, cette ouverture vers l'international, aujourd'hui, on peut dire que le festival a trouvé son troisième public, celui des spécialistes, qui n'hésitent pas à faire 500, 1000 km, parce qu'il y a tel auteur qui est là, et parce qu'ils ont envie de prendre du temps avec lui, ce qui est possible à Saint-Élémy, ce qui n'est pas toujours possible dans les grands festivals ailleurs.
On va parler des auteurs et autrices tout à l'heure. On va commencer par l'affiche, un mot, hein, puisqu'elle est toujours faite par quelqu'un qui participe au festival. Cette année, elle a un trait un peu classique. Alors, c'est pas une critique, c'est juste que j'ai pas trouvé d'autre adjectif. Elle est très belle. Qui l'a faite et comment ça s'est passé?
Alors, c'est toujours un redoublant. Ça, c'est un principe chez nous. Ah. Certains festivals appellent ça le président, on n'utilise pas ce terme. C'est quelqu'un qu'on a reçu, avec qui le feeling a fonctionné. Et on s'est dit, tiens, on te reverrait bien, mais en plus, si tu nous faisais l'affiche, ce serait sympa. Donc c'est ce qu'on s'est dit avec Jacques Terpan l'été dernier. Jacques est un illustrateur, effectivement, de BD franco-belge installé, avec une bibliographie conséquente et un style très figuratif, hein, qui apparaît bien sûr dans cette affiche. Très installé, donc assez classique, je crois que tu as bien fait d'utiliser ce terme, Ben. Néanmoins, il a fait deux clins d'œil. Hein. Un premier clin d'œil au travail que nous avons engagé sur la vie d'Ennemi, qui nous donne une rencontre annuelle maintenant en septembre, dont on aura l'occasion de reparler. Et puis, un deuxième clin d'œil qui est que le vieux village l'a séduit. Il est allé y faire nous deux tours tranquillement pendant les trois jours où il était là. Et il a voulu se saisir de cette architecture magique de la cité médiévale et en faire la cité du livre. Et voilà. Et pour nous, quelque part, ça nous a pété aux yeux quand on a vu son affiche. On s'est dit, bon Dieu, mais bien sûr, si on mettait les bouquins partout dans ce village, ce serait magique. Et peut-être bien, d'ailleurs, que tout d'un coup, cette idée fera chemin. Mais nous en parlerons à l'occasion.
Pourquoi pas. Val, quand on parle de commande comme ça, puisque c'est une commande, hein, il faut quand même qu'il y ait un graphisme, des choses, etc. Est-ce que tout te plaît dans ce que tu fais quand on commande quelque chose est-ce que parfois tu te dis, ouais, bon, bah, ok, mais de toute façon, c'est la commande. Comment ça se passe?
Bah, oui, il y a les deux. De toute façon, il y a le plaisir de dessiner, ça c'est déjà une première chose. Effectivement, on part sur une idée qui est la nôtre. Et comme je te disais tout à l'heure, des choses qui vont nous faire rire, ben, on est dans le même concept, des choses qui vont nous plaire, où on pense que ça va, parce que ça nous plaît, ça va plaire aux clients. Et puis on se rend compte que c'est pas le cas, et là, il faut mettre un petit peu aussi son orgueil de côté en disant c'est pas à nous que ça doit plaire, quoi. C'est aussi la personne qui fait une commande et qui est en droit de nous dire bah non, j'aurais plus vu ça que ça, et puis et on s'adapte. Oui, ça c'est sûr que la personne qui fait la commande, elle commande quelque chose qui lui plaît.
Alors il y a aussi une part, je vois l'échange qu'on a eu avec Jacques Terpan cette année, a été bordé. C'est-à-dire qu'à un moment, il nous a dit, moi je veux bien faire quelque chose pour vous, parce que vraiment, je suis venu un peu à reculons, parce qu'il y a des années, on m'avait reçu dans des conditions moyennes, aujourd'hui on me reçoit beaucoup mieux, et donc j'ai envie de revenir et de vous faire plaisir. Mais j'inscris ça dans un triptyque. C'est-à-dire qu'en fait, l'affiche d'Ennemi BD est la troisième qu'il aura commis en 4 ans, et il s'arrêtera là, il ne veut plus en faire. Et donc il les a pensés dans la même logique que toutes les trois, avec un fond bibliothèque mais qui est contextualisé par rapport au territoire dans lequel se situe le festival, et puis bien sûr un personnage identitaire de ce lieu. Voilà, donc à partir de ces deux éléments là il nous a dit, si on joue sur ces deux éléments là je veux bien jouer. Et donc quelque part il y avait une double commande, quoi. Voilà, lui il voulait être dans son triptyque et nous on avait aussi besoin quand même de garder notre identité, quoi.
C'est ça, vous envoyez un cahier des charges quand même avec tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que lui doit créer toute l'affiche ou ne crée que le visuel?
Alors dans son cas il a souhaité créer toute l'affiche, c'est un des premiers qui nous a imposé notamment ce cadre noir qui entoure cette affiche cette année, hein, qui est assez inhabituel chez nous, mais qui est pas négligeable, hein, en termes visuels c'est une bonne accroche aussi. Il demande à être vu de près, par contre, hein, c'est un document qui est plus à consulter qu'à regarder de loin, mais par contre, il a souhaité effectivement pousser la logique jusqu'à l'infographie, ce qui est assez rare, hein, chez les illustrateurs.
Alors, cette année, rentrons dans le vif, hein, pléthore d'auteurs, d'autrices sont présents. Si j'ai bien compté, ils seront une trentaine. Les habitués, bien sûr. Bon, je pense à Eric Hupsch, hein, forcément, ou encore à notre cher Val, ici présent, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais des petits nouveaux cette année, d'après ce que j'ai vu sur votre page Facebook, normalement, ils seront 7 ou 8 vrais nouveaux que vous avez jamais accueillis, ou plus ou moins. Je te vois aussi un peu du chef.
Plus que ça, presque. Hein. Parce qu'effectivement, on a, et ça, ça a été aussi un échange avec Jacques Terpin, qui, ayant vécu l'édition 2022, nous a dit « Votre truc, c'est super. Par contre, faites gaffe, les gars, vous avez un lieu magique, mais qui nécessite d'être dans une jauge modeste, limitée. » Donc, on était monté facilement à 35 auteurs, parce qu'on se fait toujours déborder au dernier moment par telle ou telle demande. Là, on a resserré les boulons à 25. Avec les éditeurs, ça va porter à 30, puisque les éditeurs arrivent avec plusieurs auteurs chaque fois. Mais donc, on a un peu réduit la jauge. Et puis, par la même occasion, ça nous a permis de renouveler un peu le plateau. On a renouvelé pratiquement de 2/3. Il y a un tiers de fidèles, de très fidèles, mais il y a 2/3 de nouveaux. Alors dans ces 2/3 de nouveaux, il y a deux parties. Il y a un tiers qui est la mouvance que nous a amené Jacques Terpin, hein, ses amis, les gens avec qui il aime travailler. Notamment, il y a quelqu'un qui a un savoir-faire très particulier, qui s'appelle Jacques Chupin, qui est graveur en taille douce. Et qui sera présent à un atelier, qui va faire des ateliers-conférences pendant le festival, à 11h et à 15h tous les jours. Et c'est un moment assez magique, parce qu'on se rend bien compte que de l'illustration à la taille douce, il y a tout un passage qui vaut le coup d'être vu, et ça fait partie de ces métiers autour du livre qui sont rarement valorisés. Donc Jacques a voulu, comme ça, quelques amis autour de lui, ça constitue à peu près un tiers. Et puis après, on est allé chercher un tiers de nouveaux, comme tu disais, parce que notre lectorat est là. Il est fidèle, mais il est curieux. Et il sait que ce rendez-vous, c'est aussi pour lui satisfaire assez facilement sa curiosité, parce qu'on a fait le boulot pour eux. Quoi. Voilà. Donc à nous de faire le boulot, on a essayé.
Donc ce qui prouve, Val, que finalement, être auteur de BD, c'est pas forcément être seul au monde, hein, c'est avoir plein d'amis.
Ah oui, c'est réaliser la BD où on est souvent seul, mais sinon pour le reste, oui, bien sûr, mais c'est, je pense qu'on ne peut pas travailler seul de toute façon.
Comment on travaille en binôme justement, hein, je pense à la BD, ici, bande de blaireaux, hein, comment on travaille comme ça quand c'est un métier solitaire avec quelqu'un d'autre? Est-ce que vous envoyez des rushs, vous faites des vannes par SMS
C'est de l'échange permanent, c'est des allers-retours, j'aime pas, plutôt ça, non, finalement, plutôt ça. Et c'est des discussions, et parfois sur des détails. Hein. Ça peut être juste, tiens, pourquoi tu lui as fait un point rouge sur le t-shirt alors qu'on avait demandé un point vert, parce que... enfin, mais c'est de l'échange permanent. C'est de la communication, c'est du dialogue et une forme d'arbitrage, malgré tout. Donc, voilà.
Et puis des bonnes rigolades, j'imagine, en fait. Quand tu reçois un message, tu dois te dire « Ah oui, ça me fait marrer. »
Exactement. Merde. Encore une fois, c'est vraiment le plaisir. Mais déjà, le fait d'être à deux, c'est un avantage, parce que quand on est dans l'humour et dans le gag, justement, c'est d'envoyer le gag à l'autre en disant « Putain, moi, je me suis marré. » Pardon pour les gros mots. Et la personne en face qui dit bah, « T'es gentil, moi, j'ai rien compris. » Et là, on se retrouve un petit peu le derrière entre deux chaises, en disant « Bon, je vais revoir un peu ma copie. » Et puis voilà, mais c'est de l'échange permanent, ouais.
Philippe, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le festival, que j'invite vraiment, auditeurs, auditrices, à aller passer un moment très convivial à Saint-Enémy, concrètement, où ça se passe à Saint-Enémy et comment ça se passe?
Alors on est sur un schéma qui est aujourd'hui un peu stabilisé. Depuis le Covid, on a donc élargi nos espaces, on a 3 espaces, hein. Un espace principal dans la salle des fêtes du village, qui ouvre au genre BD au sens large, hein, c'est-à-dire tout ce qui est BD franco-belge, BD ligne claire, et puis le roman graphique qui trouve sa place aussi, bien sûr.
Après... Alors j'aimerais bien, si tu peux me permettre, juste qu'on explique ce qu'est un roman graphique.
Alors, il y a un glissement en plus, c'est-à-dire que le roman graphique qui est apparu dans les années 2000-2010 était d'abord et avant tout une façon de traiter de façon plus ample le sujet, de ne pas se formater à 48 pages comme était la logique de la BD franco-belge, donc de se donner plus de place et puis en même temps de donner aussi plus de place au texte. Et parfois de savoir alterner des pages complètes de texte qui permettaient d'éclairer le sujet. Et là-dessus, la revue dessinée, par exemple, a ouvert très largement des pistes dont le roman graphique s'est beaucoup inspiré ensuite et réciproquement. Aujourd'hui, le roman graphique et la BD sont en train de glisser gentiment vers un format conséquent, c'est-à-dire dire qu'en réalité, les éditeurs se sont rendus compte que pour monter les prix, la BD franco-belge à 48 pages, ça a commencé à faire cher. Donc, on demande aux auteurs, et les auteurs s'y prêtent volontiers parce que ça leur donne plus d'amplitude, à des formats à 80, 100, 120 pages, 120 planches. Et ce qui était le format initial du roman graphique. Sauf que là, ces 80, 100, 120 pages sont des planches dessinées. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'hybridation des genres entre d'un côté ce qui était le travail par case de la BD franco-belge en 48 pages et le roman graphique qui était plus ample avec une place pour le texte, une place pour le documentaire, pour le savoir contradictoire comme la revue dessinée le fait très bien. Voilà, donc ces genres-là cohabitent, se mixent, mais par contre ce qui est intéressant c'est que dans le roman graphique, mais la BD n'y échappe pas non plus, les thèmes sociétaux sont aujourd'hui très présents. J'y faisais référence avec Christophe Girard. On a notamment aussi Nina Jacquemin, une autrice belge là, qui revient, qui est des Enfants Rouges, qui traite des sujets très subtils sur la relation personnelle aux choses, hein, notamment la perte d'un être cher, qu'est-ce que c'est que de devenir grand quand on est un petit, des choses comme ça, mais qui sont traitées avec beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité graphique et une amplitude dans la production. Voilà. Donc c'est un genre qui aujourd'hui trouve un peu sa plénitude pour des auteurs qui joue le jeu, parce qu'il y a ceux qui, après, sont capables de faire 160 pages en 6 mois. Mais ce n'est pas tout à fait le même genre. Hein, voilà. Après, je dirais un mot, justement, je viens de parler de Nina Jacquemin. Cette année, on a aussi un fort équilibrage féminin. En rigolant avec Florence Carr du Conseil régional, il y a 2 ans de ça, elle nous chatouillait un peu en nous disant « c'est masculin votre affaire quand même ».
Je l'avais fait l'année dernière aussi, voilà. Je me rappelle, où j'avais dit « bon ».
C'est ça. Et bien cette année, si tu prends la liste, tu verras qu'on n'est pas à 50-50, mais pas loin.
Ouais. Hein?
Donc ça veut dire que ça bouge, les lignes bougent bien, et puis on les a fait bouger dans tous les champs. Donc on les a fait bouger notamment sur l'espace jeunesse. Nina est là, il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Emily Van Volsen, qui est belge d'origine également, mais qui est elle aussi attirée par le sud de la France, plutôt du côté de la vallée du Rhône, et qui fait un travail de documentaire scientifique pour les enfants, illustré, de très grande qualité, chez Ricochet, avec une série animalière qui est vraiment très prisée par les naturalistes, parce qu'elle permet de faire passer du savoir, mais de façon tout à fait ludique et très graphique. On a donc également Marie Jaffredo, qui est une amie de Jacques Terpan, et qui vient de commettre, avec une scénariste, un travail d'enquête sur les paysans, qui s'appelle Le Champ des Possibles, qui est assez intéressant, bon, qui est, comme je disais, un hybride entre roman graphique et BD, qui fait 120 planches, mais qui montre bien les différentes pistes qu'aujourd'hui les agriculteurs et ceux qui aiment la terre, ceux qui ont envie de ne pas la transformer en un outil qui va disparaître rapidement, peuvent chercher comme nouvelle piste. Et je crois que dans un contexte comme la Lozère, le bouquin de Marie, Jaffredo, sera sûrement très apprécié. Parmi les autrices aussi présentes, bien sûr, Florence Magnien, avec qui on travaille sur le manuscrit de la vie d'Ennemi, qui est dans un style très personnel. C'est de l'héroïque fantasy, c'est du médiéval, mais c'est du Magnien, quoi. C'est pas autre chose. Elle a son public. Hein. Elle a un public qui fait 800 km pour la suivre, des fois. Mais c'est vraiment quelqu'un qui mérite le détour. Et puis, dans la liste des présentes, je veux pas oublier Laurette de Brichy, qui est la régionale de l'étape, qui est un personnage exceptionnel.
Qui est belge aussi.
Qui est belge. Voilà, hein. Comme
on
quoi,
les envahit, on les c'est envahit.
Ça. Et puis encore, il me faut parler d'une autrice suisse, juste après, faites-moi y penser. Mais Laurette, c'est quelqu'un qui est vraiment un personnage d'exception. Il n'y a pas de terme autre. Elle a une culture musicale exceptionnelle. Elle a une culture japonisante pharaonique. Et elle est d'une créativité 20 heures sur 24. Mmh. On se demande à quoi elle tourne. Parce qu'elle n'arrête jamais. Elle est aujourd'hui dans des productions de 3D, elle crée des automates. Ces automates sont des personnages qui deviennent des éléments de romans photo, mais qu'elle transforme en BD. Sa démarche est complètement anachronique et elle mérite d'être témoignée et ses publications méritent d'être là. Sa série s'appelle Félicia, elle en est au tome 4, je crois, ou 5 même. Elle vient de passer à la couleur en plus et elle s'est ouverte à la 3D. Et elle nous a fabriqué, petit clin d'œil, parce qu'elle est d'une générosité démesurée, elle nous a fabriqué les Toupinas, qui sont nos illustrations que Jean-Marc Stalner avait créées il y a quelques années. Elle vient nous les fabriquer en 3D et ils constitueront les figurines des prix 2023. Voilà. Donc fabriqué par Laurette et peint par Antoine, notre ébéniste de service, les Toupinas seront dorénavant en 3D pour les auteurs qui gagneront les prix.
Voilà. La classe, et on va en reparler hein, de la compétition juste après. Autant te faire penser ce à quoi on doit te faire penser tout de suite, puisque je n'ai pas eu le temps de noter.
Alors c'est en l'occurrence une autre autrice, enfin un couple d'autrices en l'occurrence, une scénariste et une illustratrice, qui sont suisses et qui viennent avec une série pour les adolescents sur les problématiques adolescentes. Chaque petit album est traité, alors c'est à mi-chemin entre l'album jeunesse et la BD, et ça permet de traiter un thème d'adolescence, mais avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de subtilité, un peu comme si la caméra était dans leurs mains à eux, quoi. Mmh. Et si ce traitement par eux apportait finalement un regard bienveillant sur ce que sont leurs problématiques et non pas un regard culpabilisant. Donc cette série méritait sa place. C'est un éditeur suisse qui nous l'a confié, et donc elles seront présentes toutes les deux.
Ne perdons pas le Nord et surtout pas la Belgique, hein, d'ailleurs. vous savez, les Belges seront présents sur le festival et c'est vachement bien. J'aurai un petit clin d'œil à faire à la fin de cette émission. Mais surtout, donc, on avait commencé à parler du circuit qu'on pourrait voir. Et puis, j'étais perdu avec le roman graphique. Et t'as bien fait de digresser sur tout ce qu'on aura pu voir et les autrices qui sont ô combien importantes. Tu m'étonnes, c'était super de le faire.
Le circuit.
Il y aura évidemment une place aussi au manga qui sera présente, puisque le manga a pris une importance assez incroyable dans le monde du dessin aujourd'hui.
Alors le manga a pris une importance surtout dans le mode de la diffusion, hein, puisqu'aujourd'hui, on a circulé à peu près autour de 2000 gamins cette année, chaque fois on pose la même question, toujours avant de démarrer, c'est qui lit des BD ? Il y a 7-8 ans de ça, quand on a commencé nos actions scolaires, on avait à peu près la moitié des gamins qui lisaient des BD. Mmh. Aujourd'hui, 100% des gamins lisent des BD. Partout, 100%. Et par contre, quand on pose la deuxième question, c'est « Et qui lit des mangas ?» Il y a 7-8 ans, zéro. En premier degré, quelques-uns en collège. Aujourd'hui, 50% dès le premier degré, dès l'école. Donc ça veut bien dire que le genre manga est un genre qui s'est installé dans la diffusion. Par contre, ce qu'on peut regretter, et nous on le regrette parce que la place du manga n'est pas celle qu'on souhaiterait, on a deux auteurs, c'est trop peu, en fait c'est du manga japonais traduit par des éditeurs français, qui en profitent pour faire une action économique forte, mais sans accompagner une vraie créativité. Et ça, c'est dommage, parce que du coup, le vivier d'auteurs français dans le domaine du manga reste modeste et surtout difficile à solliciter, parce qu'il est justement réduit. Et ça, nous, on le regrette, parce que c'est un genre qui, effectivement, trouve sa place auprès des jeunes, mais que nous, on a du mal à représenter en festival dans le format où nos festivals sont constitués actuellement.
Un jour, ça viendra, tu crois ?
Je pense que ça viendra si on arrive à faire comme on a fait pour le reste, à travailler en direct avec les auteurs. Mmh. Aujourd'hui, on est un peu corseté parce qu'on est obligé de passer par les éditeurs. Et les éditeurs, c'est pas le meilleur maillon de la chaîne dans la chaîne du livre.
On a eu un mot hein, déjà sur les mangas. Fan ou pas, Val ?
Pas fan, mais pas. Je rejette pas du tout le manga. C'est juste un univers auquel j'ai du mal à accrocher, tout simplement. Et donc, pour le coup, que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Mais c'est absolument pas quelque chose que je rejette. Je pense que c'est un univers à part entière et qui mérite qu'on s'y intéresse. Moi, j'ai encore du mal à m'y intéresser. Je reste très, très franco-belge et très gros nez, évidemment. Donc.
Est-ce que tu imagines que ça se passe comme ça en France, où c'est les lecteurs qui décident si un manga doit continuer ou s'arrêter au Japon ? T'imagines si on faisait ça en France aujourd'hui ? Est-ce que ce serait possible dans le monde de la BD ?
Bah, c'est un peu ça. Je veux dire, une fois que les ventes s'arrêtent, en général, c'est pas dit comme ça, mais c'est ce qui se passe. Quand les ventes s'arrêtent, l'éditeur ne parle pas aux lecteurs, mais par contre, aux illustrateurs, il leur dit bien, ça se vend pas, on n'en veut plus. Mmh. Donc, sur le principe, c'est ça. Hein.
Est-ce que ça permet pas quand même à la BD de continuer dans d'autres cercles, en auto-édition
Mais dans tous les cas, toujours. Je pense qu'aujourd'hui, la BD peut exister à tout niveau, même j'ai envie de dire avec de la réalisation 3D, avec le cinéma d'animation, etc. Donc il y a des vecteurs possibles, ce qui n'était pas possible il y a encore 20 ou 30 ans.
Même pour une BD qui n'a pas marché, quoi.
Même pour une BD qui n'a pas marché, aujourd'hui on peut trouver un public plus restreint, mais un public quand même. Donc puisqu'aujourd'hui l'auto-édition est bien plus possible qu'avant, et donc on peut toucher un lectorat qui est beaucoup plus proche, évidemment. évidemment, quand on habite en Lozère, on va moins vite toucher le Parisien.
Quoique, bien sûr, s'il vient en vacances.
Oui, bien sûr. Mais je veux dire, à côté de ça, voilà, on peut aussi trouver un lectorat qui est localisé. Et c'est bien, c'est une très bonne chose.
Et puis, la BD a cet avantage, c'est qu'elle reste encore très immense, d'une immense majorité, d'un lectorat physique. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences de BD numérique, de BD sur support numérique, notamment la Caisse d'Épargne avec le Festival d'Angoulême a propulsé pendant quelques années des collections de BD numériques, ça n'a pas pris. Ça ne fonctionne pas. C'est un autre format, c'est une autre façon de lire les choses. On a un certain nombre de mangas qui ont été mis au format, notamment des smartphones, avec une circulation verticale, hein, ce qu'ils appellent un scroll, mais... on n'a pas le même confort de lecture. Voilà. Alors pour un manga, ça peut passer parce qu'il y a peu de textes et on circule assez facilement d'une case à l'autre puisqu'on est souvent dans du portrait, les décors sont minimalistes, etc. Dès qu'on est sur une BD où le travail justement de décor, le case à case a de l'importance et le scénario, bien sûr, est dominant, le numérique trouve très vite ses limites. Et donc, comme le disait Val, après c'est une question d'édition. Il faut arriver à éditer et il faut arriver à ce que l'édition touche le lecteur. Mais par contre, les moyens numériques sont une façon de mieux informer. Donc du coup, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. La diffusion numérique, notamment les projets participatifs, ont relancé l'édition indépendante et ça, c'est une bonne chose.
Comme quoi, il y a du bon partout. Alors, un mot sur les prix que vous décernez. Il y a 4 prix plus 1 qui est décerné pour l'intégralité de l'œuvre. Je savais que j'allais buter sur ce mot, je l'ai su en écrivant cette interview, c'était sûr. Donc, hormis le prix pour la nouveauté, comment vous fonctionnez pour choisir celles et ceux qui ont la chance de concourir ?
Ah, ça, c'est le pire, ça.
J'imagine.
Ça, on va surtout pas le dire. Parce que si on dit ça, l'année prochaine, au lieu d'avoir 25 auteurs, soit on n'en a que 5, soit on en a 50. Donc, on ne va pas rentrer dans des explications savantes à ce sujet. Non, ce qui est sûr, c'est qu'on constitue un petit noyau de lecteurs assidus de bande dessinée, mais pas que. Hein, de gens qui ont de la curiosité sur les sujets sociétaux ou qui sont de curiosité culturelle large. Et ce petit noyau, donc, périodiquement, se présente, s'informe un petit peu de ce qu'il est en train de lire. On a des cercles de lecture, parfois à distance, parfois en présentiel. Et donc ça nourrit un peu, déjà, tout au long de l'année, nos choix. Et puis après, quand arrive le festival, on a ce format qu'on s'est donné de 4-5 prix, ce qui est beaucoup, hein, pour un petit festival comme nous, avec 4 nominés minimum, parce qu'on estime que sinon, c'est pas marrant. Et donc ça fait tout de suite 15-20 auteurs, 15-20 BD qu'il faut sortir du lot. C'est beaucoup. Là, pour vous donner une idée, cette année, donc, sur 25 auteurs, il y aura à peu près 1000 BD de présentés. Sur ces 1000 BD, ça veut dire en gros pas loin de 150 titres différents. Et donc il faut en sélectionner une quinzaine, 10%. Voilà. Donc ça, c'est un travail, comme je viens de le dire, qui s'installe tout au long de l'année. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que d'une année à l'autre, on fait des petites variantes. Là, cette année, on a fait un prix du haut, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient inséparables. Soit scénariste, auteur, soit coloriste et illustrateur. Donc ça nous a plu de faire un prix du haut. Voilà. Après, il y a le prix légende, auquel tu faisais référence tout à l'heure, sur la totalité de l'œuvre. Alors le mot légende, les auteurs ne supportent pas. Parce qu'ils disent, ça va, ça y est, ils m'ont fait ma caisse en bois, ils arrivent avec le marteau et les pointes, et ils vont mettre
délivré
le couvercle.
Délivré à titre posthume.
Voilà, c'est ça. Sauf qu'on ne l'a jamais délivré à titre posthume.
Je souhaite que ça n'arrive jamais.
Voilà, et que les auteurs qui l'ont eu sont présents souvent encore. Donc ça veut dire que la malédiction ne s'est pas portée sur eux, c'est déjà pas mal. Voilà, après, les prix sont dans une logique assez facile à repérer. Il y a un prix sur la partie jeunesse, bien sûr, parce qu'il y a une production jeunesse aujourd'hui conséquente et que nous on la relaie fortement avec un espace jeunesse particulier, des activités aussi pour les gamins. Il y a un prix bien sûr de la nouveauté, ça compte. Pour nous, on est aussi à l'affût. Cette année, on a pratiquement une vingtaine de nouveautés qui seront en dédicace pour la première fois sur un festival. Donc ça, c'est une chance extraordinaire pour le public lozérien. Et puis après, on a le prix, le coup de cœur, quoi, le prix du festival, parce qu'il en faut un, quoi. Voilà. Donc déjà, ça en fait 4, hein, avec le prix légende. Puis on a rajouté le prix du haut, mais ça, c'est pour rigoler, quoi, comme je le disais tout à l'heure.
Sachez, auditeurs et auditrices, que les prix sont décernés ce samedi, donc à 18h, je pense,
oui,
vers cette heure-là, et que nous aurons la chance d'avoir les Eurogagnants gagnantes en plateau, en direct du festival, dimanche à partir de 10h30. On a avancé un peu cette année parce qu'on s'est fait avoir avec l'heure du déjeuner.
Et ouais, après, les auteurs ont faim et, on bouscule les techniciens qui n'arrivent pas à ramasser leurs fils, on confond ça avec les spaghettis. C'est pas très heureux pour personne.
10h30 en direct sur Radio Bartas. Est-ce que vous recommencez cette année le partenariat avec la mission locale?
Alors, la mission locale, on a fait une parenthèse cette année parce qu'on est en partenariat. En fait, le partenariat avec la mission locale, il est issu d'abord pour nous du mécénat de la Fondation Orange, oui, avec qui on travaille maintenant depuis 4 ans. D'abord sur ce qui était les publics oubliés du livre. Et puis, petit à petit, on a glissé vers les publics oubliés du numérique et comment on pouvait faire le lien entre le numérique et le livre. Voilà. Aujourd'hui, on fait une pause en 2023 parce qu'en fait, on veut rebondir l'année prochaine avec un institut de formation au métier d'art sur Montpellier qu'on va mettre en relation avec la mission locale Lozère pour faire du travail de formation de formateurs et arriver à ouvrir une filière pour les jeunes qui vont bosser avec nous en projet. Mmh. L'idée, c'est pas de faire un one-shot qu'on présente le jour du festival. C'est sympa, mais ça fait pas tout. C'est de leur ouvrir la possibilité de rencontrer des vrais professionnels du monde de l'illustration et voir si certains d'entre eux peuvent partir en stage, voire éventuellement tenter quelque chose dans ces filières-là, dans ces métiers-là. Donc voilà, on a fait une pause, on travaille sur ce projet-là. La Fondation Orange continue à nous accompagner dans ce sens. Et 2024 devait être un nouveau galop dans cette relation avec la mission locale.
Voilà, en tout cas, c'est important pour les auteurs et les autrices d'avoir des salons comme ça, surtout pour celles et ceux qui ont moins de visibilité.
Oui.
Je dis salon, festival. Hein. Oui, je ne sais pas festival. Si salon est un mauvais mot, pardon.
Non, je ne pense pas que ce soit un mauvais mot. Non, loin de là. Non, c'est mais ça reste des moments importants parce que ça nous permet de rencontrer, d'abord les lecteurs, ça c'est clair. Hein. Je pense qu'encore aujourd'hui, je défends absolument cette rencontre et la dédicace et je continue à y croire. Très fortement. Ça permet de croiser les collègues aussi, ça permet de croiser autre chose que ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, le secteur de la BD, c'est tellement vaste. Avec moi, j'ai choisi le pendant humoristique, mais en jeunesse, manga, science-fiction, historique, enfin, il y a tellement de choses et tellement de qualités, et avec autant d'auteurs sympathiques qui sont vraiment très très chouettes. Puis rencontrer les organisateurs, hein. Bon, évidemment, ils sont pas tous aussi sympathiques que ça.
Ou passionnés, en tout cas.
Non, mais ici, c'est un petit clin d'œil à Philippe, c'est une petite boutade. Parce que c'est toujours un vrai bonheur d'avoir ces équipes d'organisateurs qui sont souvent des associations et qui se décarcassent pour nous. Parce que généralement, nous, on ne voit que le moment du festival et on oublie qu'eux, avec leur association, ils se décarcassent pendant un an pour qu'on puisse venir vendre nos bouquins. Et donc oui, ça se salue aussi et c'est toujours un plaisir d'avoir des équipes très très sympathiques. D'ailleurs, en général, quand on a une équipe pas sympathique, on ne retourne pas en festival non plus. Voilà.
Ah, c'est ça, c'est pas forcément à chaque fois super cool et puis c'est fatigant comme ça finalement de passer 8 heures sur une table à dédicacer.
Alors ça va. Non, c'est vraiment, je pense, la relation avec les équipes.
Ouais, mais je parle si jamais ça se passe pas bien avec l'équipe en plus. Je pense que...
Ah, alors oui, c'est surtout le après, c'est pas la dédicace, on s'enferme plutôt là-dedans, mais on a juste pas le plaisir d'y aller, tout simplement, parce qu'on se sent pas bien accueillis et autres. Voilà. Alors j'en profite évidemment pour remercier Philippe et son équipe, parce que là, ça fait des années que j'y participe et on a toujours le plaisir d'y aller. Je suis le premier à clamer le festival de Saint-Denis, à faire la pub à l'extérieur auprès de mes amis illustrateurs.
Et nous, pareil, évidemment, puisqu'on en est partenaire, on en est ravis et très fiers. Justement, puisqu'on parle de partenaires, tu parlais de la Fondation Orange, voilà, mais ça ne doit pas être les seuls pour organiser un tel événement.
Ah non, bien sûr. On a aujourd'hui une palette de partenariats qui est bien installée. C'est ce qui fait d'ailleurs que nos initiatives peuvent exister. On a la chance encore, moi je le dis souvent en équipe, on a encore la chance que cette confiance de nos partenaires, y compris nos partenaires financiers, bien sûr, c'est important, nous soit apportée de façon globale, sur notre projet global. On n'a pas de financeurs ou de partenaires qui nous disent « on vous aide que pour ça ». On vous aide que pour le festival, ou on vous aide que pour les actions scolaires, ou on vous aide que parce que vous êtes à un certain moment dans l'aide à l'édition, ou parce que vous êtes dans la recherche d'une sauvegarde patrimoniale comme sur la vie d'ennemi. Non, les gens nous font confiance et globalement, du coup, ça nous donne une marge de manœuvre conséquente qui fait qu'on peut mêler ces différents types d'actions, c'est-à-dire à la fois des actions de sensibilisation, des actions de valorisation du travail des autres, et puis des actions de création, d'édition, etc. Donc tant qu'on a cette chance-là, cette approche globale avec nos partenaires, pour nous, ça vaut le coup de continuer. Et du coup, les partenaires sont nombreux, effectivement. Ils sont bien sûr liés aux collectivités territoriales, logique, hein, depuis la commune, en passant par la communauté de communes, le département, la région. Ça paraît facile de le dire comme ça, mais depuis 10 ans, c'est pas neutre. Ce sont aussi, bien sûr, les institutions de l'État. Aujourd'hui, on a une relation très privilégiée avec la DRAC, avec son secteur du livre. Et ça, pour nous, c'est un encouragement très fort. Mmh. Et qui nous ont ouvert la porte du Centre National du Livre, donc avec qui aujourd'hui, on a une relation installée aussi. Donc ça, c'est très appréciable également. Et puis, bien sûr, la confiance aussi de partenaires plus privés, de mécénats. On a cité la Fondation Orange, mais on a aussi un partenariat avec la MGN, qui nous accompagne notamment dans l'acquisition de BD pour les mettre à disposition en tant que ressources sur le terrain scolaire ou le terrain bibliothèque. Donc voilà, des pistes qui, de toute façon, nous permettent d'exister, parce que tout seul, la petite équipe qu'on a, on ne ferait pas tout ça. Voilà. Et puis, j'ai oublié, bien sûr, l'Office du tourisme, hein, qui s'appelle maintenant l'Agence d'attractivité du territoire, qui nous accompagne aussi, hein, c'est important. Voilà.
Et on reparlera de la vie d'ennemi, donc ça, ce serait en septembre, hein, c'est ça?
Tout à fait, on a maintenant ritualisé, on l'espère du moins, ce rendez-vous qui se situera le 23-24 septembre et sur lequel le triangle chercheur, universitaire, grand public et puis auteur, illustrateur doit fonctionner. C'est notre objectif. L'an dernier, pour un premier jet, ça a plutôt été très sympa. Je crois que tout le monde est reparti très heureux de s'être rencontré. C'était notre but premier, hein, faire en sorte que les gens retrouvent la même convivialité que celle à laquelle faisait référence Val sur le festival d'été. On a réussi ce pari de vivre ensemble quelque chose de sympa ici et dans les gorges du Tarn en septembre. Donc le deuxième pari, c'est d'abord celui-là aussi en 2023. Et puis c'est de commencer à ne pas se contenter de parler que de la vie d'ennemi, mais de parler aussi de la qualité du territoire, de revenir sur l'étude toponymique en occitan, des choses qui peuvent intéresser aussi parce que quelque part ça fait partie de la culture de ce pays, quoi.
Tu viendras nous en reparler.
On n'arrêtera pas.
Oui, ça c'est sûr. Avec toi, j'imagine. Bulle de Burle, organisée par Animi BD. C'est à partir de ce samedi et jusque dimanche à Saint-Animi, bien sûr. Merci beaucoup, Philippe.
Merci et à dimanche. Et pour certains, à samedi pour samedi, les autres. Oui. Et puis samedi et dimanche pour tous ceux qui veulent.
Et nous, dimanche matin, on y sera à partir de 10h30 en direct. Et Val, merci beaucoup.
Ben merci.
Bande de blaireaux aux éditions Pickles, c'est disponible dès aujourd'hui sur toutes les grosses plateformes et forcément à partir de ce week-end à Saint-Denis.
À Saint-Denis, sans problème.
Et puis Jean-Michel Border Folie, le tome 3.
En route et le plus vite possible.
Et déjà sur ma boîte mail, j'en suis content. Merci beaucoup.
Merci
infiniment
à
tous les deux. Alors c'est la fin de cette matinale, évidemment. Tu as fait la programmation musicale Val aujourd'hui, mais on va se quitter avec quelque chose d'assez particulier. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé beaucoup des Belges. J'ai bien compris qu'ils étaient partout, donc on va se quitter avec les gaufres au sucre. Le morceau s'appelle Vamos a Saint-Loup. Pourquoi ? Parce qu'il y a des Belges partout, partout, partout. Auditeurs, auditrices, portez-vous bien, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas en direct avec nous dimanche matin, on se retrouve lundi pour parler du festival des Tours du Monde qui se profile aussi. Bah ouais, c'est l'été, ça bat son plein. Portez-vous bien, prenez soin de vous, restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal. À très vite, ciao.
Partir loin, mais je ne savais pas bien où. À l'agence de voilier, ils ont voulu me conseiller.
Si vous voulez bronzer, ben allez à Saint-Loup.
Faire 35 heures de car jusqu'à destination, c'était pas trop mon truc, j'ai préféré prendre l'avion. Et quand après 2 heures le charter a atterri, j'ai fait comme tous les autres, comme eux, j'ai applaudi.
Vamos, vamos à Saint-Loup.
Partout.
l'hôtel le premier jour, je mets mon t-shirt et mon seglé. Je prépare mes petites affaires, je me bois une cerveza pour avoir une bonne place et un transat l'après-midi. Je me lève très tôt le matin, je vais vite mettre mon essuie. Au début, ce qui est dangereux, eh ben, c'est le contact du soleil. Alors je mets de l'écran total à cause de ma poudre rouge. Et à quand même rien à faire, je reviens tout rouge comme une groseille. C'est pas grave, on se régale quand on va à Salou.
Vamos à Salou.
On s'amuse bien, on bronze, on fait les fous.
Vamos à Salou.
On va dans la piscine et il y a des Belges partout, 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 partout. Puis juste avant de revenir, quand les vacances sont finites, je m'achète tout plein de souvenirs pour me ramener en Belgique. Moi, je me prends un t-shirt avec dessus marqué Salou. Ou alors un petit taureau avec trois épines dans le cou. Des Belges partout,